20 000 lieues sous les mers, tome 1, première partie, chapitre 18, 4 000 lieues sous le Pacifique. Le lendemain 18 novembre, j'étais parfaitement remis de mes fatigues de la veille et je montai sur la plateforme au moment où le second du Nautilus prononçait sa phrase quotidienne. Il me vint alors à l'esprit qu'elle se rapportait à l'état de la mer, ou plutôt qu'elle signifiait « Nous n'avons rien en vue ». Et en effet, l'océan était désert. Pas une voile à l'horizon. Les hauteurs de l'île Crespo avaient disparu pendant la nuit. La mer, absorbant les couleurs du prisme à l'exception des rayons bleus, réfléchissait ceux-ci dans toutes les directions et revêtait une admirable teinte d'indigo. Une moire à larges raies se dessinait régulièrement sur les flots onduleux. J'admirais ce magnifique aspect de l'océan quand le capitaine Nemo apparut. Il ne sembla pas s'apercevoir de ma présence et commença une série d'observations astronomiques. Puis, son opération terminée, il alla s'accouder sur la cage du fanal et ses regards se perdirent à la surface de l'océan. Cependant, une vingtaine de matelots du Nautilus, tous gens vigoureux et bien constitués, étaient montés sur la plateforme. Ils venaient retirer les filets qui avaient été mis à la traîne pendant la nuit. Ces marins appartenaient évidemment à des nations différentes, bien que le type européen fût indiqué chez tous. Je reconnus à ne pas me tromper des Irlandais, des Français, quelques Slaves, un Grec ou un Candiote. Du reste, ces hommes étaient sobres de parole et n'employaient entre eux que ce bizarre idiome dont je ne pouvais pas même soupçonner l'origine. Aussi, je dus renoncer à les interroger. La pêche finie, la provision d'air renouvelée, je pensais que le Nautilus allait reprendre son excursion sous-marine, et je me préparais à regagner ma chambre quand, se tournant vers moi, le capitaine Nemo me dit sans autre préambule « Voyez cet océan, monsieur le professeur, n'est-il pas doué d'une vie réelle ? N'a-t-il pas ses colères et ses tendresses ? Hier, il s'est endormi comme nous, et le voilà qui se réveille après une nuit paisible. » Ni bonjour ni bonsoir, n'eût-on pas dit que cet étrange personnage continuait avec moi une conversation déjà commencée ? Regardez, reprit-il, il s'éveille sous les caresses du soleil. Il va revivre de son existence diurne. C'est une intéressante étude que de suivre le jeu de son organisme. Il possède un pouls, des artères, il a des spasmes, et je donne raison à ce savant Maury qui a découvert en lui une circulation aussi réelle que la circulation sanguine chez les animaux. Il est certain que le capitaine Nemo n'attendait de moi aucune réponse, et il me parut inutile de lui prodiguer les « évidemment », les « à coup sûr » et les « vous avez raison ». Il se parlait plutôt à lui-même, prenant de longs temps entre chaque phrase. C'était une méditation à haute voix. « Oui, dit-il, l'océan possède une circulation véritable, et pour la provoquer, il a suffi au Créateur de toutes choses de multiplier en lui le calorifique, le sel et les animalcules. Le calorifique, en effet, crée des densités différentes qui amènent les courants et les contre-courants. L'évaporation, nulle aux régions hyperboréennes, très active dans les régions équatoriales, constitue un échange permanent des eaux tropicales et des eaux polaires. En outre, j'ai surpris ces courants de haut en bas et de bas en haut qui forment la vraie respiration de l'océan. J'ai vu la molécule d'eau de mer échauffée à la surface, descendre vers les profondeurs, atteindre son maximum de densité à 2 degrés au-dessous de zéro, puis, se refroidissant encore, devenir plus légère et remonter. Vous verrez au pôle les conséquences de ce phénomène, et vous comprendrez pourquoi, par cette loi de la prévoyante nature, la congélation ne peut jamais se produire qu'à la surface des eaux. Ceci dit, le capitaine Nemo se dirigea vers le panneau et disparut par l'échelle. Je le suivis et je regagnai le grand salon. L'hélice se mit aussitôt en mouvement et le log accusa une vitesse de 20 000 à l'heure. Pendant les jours, pendant les semaines qui s'écoulèrent, le capitaine Nemo fut très sobre de visite. Je ne le vis qu'à de très rares intervalles. Son second faisait régulièrement le point que je trouvais reporté sur la carte, de telle sorte que je pouvais relever exactement la route du Nautilus. Conseil et Land passaient de longues heures avec moi. Conseil avait raconté à son ami les merveilles de notre promenade, et le Canadien regrettait de ne nous avoir point accompagnés. Mais j'espérais que l'occasion se représenterait de visiter les forêts océaniennes. Presque chaque jour, pendant quelques heures, les panneaux du salon s'ouvraient, et nos yeux ne se fatiguaient pas de pénétrer les mystères du monde sous-marin. La direction générale du Nautilus était sud-est, et il se maintenait entre 100 mètres et 150 mètres de profondeur. Un jour, cependant, par je ne sais quel caprice, entraîné diagonalement au moyen de ses plans inclinés, il atteignit les couches d'eau situées par 2000 mètres. Le thermomètre indiquait une température de 4,25 degrés centigrades, température qui, sous cette profondeur, paraît être commune à toutes les latitudes. Le 26 novembre, à 3 heures du matin, le Nautilus franchit le tropique du Cancer par 172 degrés de longitude. Le 27, il passa en vue des Sandwich, où l'illustre Cook trouva la mort, le 14 février 1779. Nous avions alors fait 4860 lieues depuis notre point de départ. Le matin, lorsque j'arrivai sur la plateforme, j'aperçus à 2000 sous le vent Hawaï, la plus considérable des 7 îles qui forment cet archipel. Je distinguai nettement sa lisière cultivée, les diverses chaînes de montagnes qui courent parallèlement à la côte, et ces volcans que domine le Munarea, élevé de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Entre autres échantillons de ces parages, les filaires apportèrent des flabellaires pavonés, polypes comprimés de forme gracieuse, et qui sont particuliers à cette partie de l'océan. La direction du Nautilus se maintint au sud-est. Il coupa l'équateur le 1er décembre par 142 degrés de longitude, et le 4 du même mois, après une rapide traversée que ne signala aucun incident, nous eûmes connaissance du groupe des Marquises. J'aperçus à 3000, par 8,57 degrés de latitude sud et 139,32 degrés de longitude ouest, la pointe Martin de Nuka Hiva, la principale de ce groupe qui appartient à la France. Je vis seulement les montagnes boisées qui se dessinaient à l'horizon, car le capitaine Nemo n'aimait pas rallier les terres. Là, les filets rapportèrent de beaux spécimens de poissons, des coryphènes aux nageoires azurées et à la queue d'or dont la chair est sans rival au monde, des hologymnoses à peu près dépourvues d'écailles, mais d'un goût exquis, des ostorhinques à mâchoire osseuse, des tasards jaunâtres qui valaient la bonite, tous poissons dignes d'être classés à l'office du bord. Après avoir quitté ces îles charmantes protégées par le pavillon français, du 4 au 11 décembre, le Nautilus parcourut environ 2000 milles. Cette navigation fut marquée par la rencontre d'une immense troupe de calmars, curieux mollusques très voisins de la sèche. Les pêcheurs français les désignent sous le nom d'encornets, et ils appartiennent à la classe des céphalopodes et à la famille des dibranchiaux, qui comprend avec eux les sèches et les argonautes. Ces animaux furent particulièrement étudiés par les naturalistes de l'Antiquité, et ils fournissaient de nombreuses métaphores aux orateurs de l'Agora, en même temps qu'un plat excellent à la table des riches citoyens, s'il faut en croire Athénée, médecin grec, qui vivait avant Galien. Ce fut pendant la nuit du 9 au 10 décembre que le Nautilus rencontra cette armée de mollusques qui sont particulièrement nocturnes. On pouvait les compter par millions. Ils émigraient des zones tempérées vers les zones plus chaudes, en suivant l'itinéraire des harengs et des sardines. Nous les regardions, à travers les épaisses vitres de cristal, nageant à reculons avec une extrême rapidité, se mouvant au moyen de leurs tubes locomoteurs, poursuivant les poissons et les mollusques, mangeant les petits, manger des gros, et agitant dans une confusion indescriptible les 10 pieds que la nature leur a implantés sur la tête, comme une chevelure de serpent pneumatique. Le Nautilus, malgré sa vitesse, navigua pendant plusieurs heures au milieu de cette troupe d'animaux, et ses filets en ramenèrent une innombrable quantité, où je reconnus les 9 espèces que d'Orbigny a classées pour l'océan Pacifique. On le voit, pendant cette traversée, la mer prodiguait incessamment ses plus merveilleux spectacles. Pendant la journée du 11 décembre, j'étais occupé à lire dans le grand salon. Ned Land et Conseil observaient les eaux lumineuses par les panneaux entr'ouverts. Le Nautilus était immobile, ses réservoirs remplis. Il se tenait à une profondeur de 1000 mètres, région peu habitée des océans, dans laquelle les gros poissons faisaient seuls de rares apparitions. Je lisais en ce moment un livre charmant de Jean Massé, les serviteurs de l'estomac, et j'en savourais les leçons ingénieuses lorsque Conseil interrompit ma lecture. « Monsieur veut-il venir un instant ?» me dit-il d'une voix singulière. « Qu'y a-t-il donc, Conseil ?»« Que monsieur regarde. » Je me levai, j'allai m'accouder devant la vitre et je regardais. En pleine lumière électrique, une énorme masse noirâtre immobile se tenait suspendue au milieu des eaux. Je l'observai attentivement, cherchant à reconnaître la nature de ce gigantesque cétacé, mais une pensée traversa subitement mon esprit.
« Un navire ! » m'écriai-je.
« Oui, répondit le Canadien, un bâtiment désemparé qui a coulé à pic. » Ned Land ne se trompait pas. Nous étions en présence d'un navire dont les haubans coupés pendaient encore à leur cadène. Sa coque paraissait être en bon état, et son naufrage datait au plus de quelques heures. 3 tronçons de mâts, rasés à 2 pieds au-dessus du pont, indiquaient que ce navire engagé avait dû sacrifier sa mâture. Mais, couché sur le flanc, il s'était rempli et donnait encore la bande à bâbord. Triste spectacle que celui de cette carcasse, perdue sous les flots, mais plus triste encore la vue de son pont où quelques cadavres, amarrés par des cordes, gisaient encore. J'en comptais 4 hommes dont l'un se tenait debout au gouvernail. Puis une femme à demi sortie par la claire-voie de la dunette et tenant un enfant dans ses bras. Cette femme était jeune, je pus reconnaître vivement éclairée par les feux du Nautilus ses traits que l'eau n'avait pas encore décomposés. Dans un suprême effort, elle avait élevé au-dessus de sa tête son enfant, pauvre petit être dont les bras enlaçaient le cou de sa mère. L'attitude des 4 marins me parut effrayante, tordus qu'ils étaient dans des mouvements convulsifs, et morts en faisant un dernier effort pour s'arracher des cordes qui les liaient au navire. Seul, plus calme, la face nette et grave, ses cheveux grisonnants collés à son front, la main crispée à la roue du gouvernail, le timonier semblait conduire son 3 mois naufragé à travers les profondeurs de l'océan. Quelle scène ! Nous étions muets, le cœur palpitant devant son naufrage pris sur le fait et, pour ainsi dire, photographié à sa dernière minute. Et je voyais déjà s'avancer, l'œil en feu, d'énormes squales attirés par cet appât de chair humaine. Cependant, le Nautilus évoluant tourna autour du navire submergé, et, un instant, je pus lire sur son tableau arrière « Florida, Sunderland ». Chapitre 19. Vanikoro. Ce terrible spectacle inaugurait la série des catastrophes maritimes que le Nautilus devait rencontrer sur sa route. Depuis qu'il parcourait des mers plus fréquentées, nous apercevions souvent des coques de navires qui achevaient de pourrir entre 2 eaux, et, plus profondément, sur le sol, des canons, des boulets, des ancres, des chaînes et 1000 autres objets de fer que la rouille dévorait. Cependant, toujours entraînés par ce Nautilus, où nous vivions comme isolés, le 11 décembre, nous eûmes connaissance de l'archipel des Pomotou, qui s'étend sur un espace de 500 lieues de l'est-sud-est à l'ouest-nord-ouest, entre 13,30 degrés et 23,50 degrés de latitude sud, et 125°30 et 151°30 de longitude ouest depuis l'île Ducie jusqu'à l'île Lazareff. Cet archipel couvre une superficie de 370 lieues carrées et il est formé d'une soixantaine de groupes d'îles parmi lesquels on remarque le groupe Gambier auquel la France a imposé son protectorat. Ces îles sont coralligènes. Un soulèvement lent mais continu, provoqué par le travail des polypes, les reliera un jour entre elles. Puis cette nouvelle île se soudera plus tard aux archipels voisins, et un cinquième continent s'étendra depuis la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie jusqu'aux Marquises. Le jour où je développai cette thèse devant le capitaine Nemo, il me répondit froidement : « Ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la Terre, mais de nouveaux hommes. » Les hasards de sa navigation avaient précisément conduit le Nautilus vers l'île Clermont-Tonnerre, l'une des plus curieuses du groupe qui fut découverte en 1822 par le capitaine Bell de la Minerve. Je pus alors étudier ce système madréporique auquel sont dues les îles de cet océan. Les madrépores, qu'il faut se garder de confondre avec les coraux, ont un tissu revêtu d'un encroûtement calcaire, et les modifications de sa structure ont amené M. Milne Edwards, mon illustre maître, à les classer en 5 sections. Les petits animalcules, qui sécrètent ce polypier, vivent par milliards au fond de leurs cellules. Ce sont leurs dépôts calcaires qui deviennent rochers, récifs, îlots, îles. Ici, ils forment un anneau circulaire entourant un lagon ou petit lac intérieur que des brèches mettent en communication avec la mer. Là, ils figurent des barrières de récifs semblables à celles qui existent sur les côtes de la Nouvelle-Calédonie et de diverses îles des Pomotou. En d'autres endroits, comme à La Réunion et à Maurice, ils élèvent des récifs frangés, hautes murailles droites, près desquelles les profondeurs de l'océan sont considérables. En prolongeant à quelques encablures seulement les accores de l'île Clermont-Tonnerre, j'admirai l'ouvrage gigantesque accompli par ces travailleurs microscopiques. Ces murailles étaient spécialement l'œuvre des madréporaires désignés par les noms de millepores, de porites, d'astrées et de méandrines. Ces polypes se développent particulièrement dans les couches agitées de la surface de la mer et, par conséquent, c'est par leur partie supérieure qu'ils commencent ces substructions, lesquelles s'enfoncent peu à peu avec les débris de sécrétion qui les supportent. Telle est du reste la théorie de M. Darwin, qui explique ainsi la formation des atolls. Théorie supérieure, selon moi, à celle qui donne pour base aux travaux madréporiques des sommets de montagnes ou de volcans, immergés à quelques pieds au-dessous du niveau de la mer. Je pus observer de très près ces curieuses murailles, car, à leur aplomb, la sonde accusait plus de 300 mètres de profondeur et nos nappes électriques faisaient étinceler ce brillant calcaire. Répondant à une question que me posa Conseil sur la durée d'accroissement de ces barrières colossales, je l'étonnai beaucoup en lui disant que les savants portaient cet accroissement à 1/8 de pouce par siècle. « Donc, pour élever ces murailles, me dit-il, il a fallu 192 000 ans, mon brave Conseil, ce qui allonge singulièrement les jours bibliques. D'ailleurs, la formation de la houille, c'est-à-dire la minéralisation des forêts enlisées par les déluges et le refroidissement des roches basaltiques, ont exigé un temps beaucoup plus considérable. Mais j'ajouterai que les jours de la Bible ne sont que des époques, et non l'intervalle qui s'écoule entre 2 levées de soleil, car, d'après la Bible elle-même, le soleil ne date pas du premier jour de la création. Lorsque le Nautilus revint à la surface de l'océan, je pus embrasser dans tout son développement cette île de Clermont-Tonnerre, basse et boisée. Ces roches madréporiques furent évidemment fertilisées par les trombes et les tempêtes. Un jour, quelques graines, enlevées par l'ouragan aux terres voisines, tomba sur ces couches calcaires, mêlées des détritus décomposés de poissons et de plantes marines qui formèrent l'humus végétal. Une noix de coco poussée par les lames arriva sur cette côte nouvelle. le germe prit racine. L'arbre grandissant arrêta la vapeur d'eau, le ruisseau naquit. La végétation gagna peu à peu, quelques animalcules, des vers, des insectes, abordèrent sur des troncs arrachés aux îles du vent. Les tortues vinrent pondre leurs œufs, les oiseaux nichèrent dans les jeunes arbres. De cette façon la vie animale se développa, et, attiré par la verdure et la fertilité, l'homme apparut. Ainsi se formèrent ces îles, œuvres immenses d'animaux microscopiques. Vers le soir, Clermont-Tonnerre se fondit dans l'éloignement, et la route du Nautilus se modifia d'une manière sensible. Après avoir touché le tropique du Capricorne, par le 135e degré de longitude, il se dirigea vers l'ouest-nord-ouest, remontant toute la zone intertropicale. Quoique le soleil de l'été fût prodigue de ses rayons, nous ne souffrions aucunement de la chaleur, car à 30 ou 40 mètres au-dessous de l'eau, la température ne s'élevait pas au-dessus de 10 à 12 degrés. Le 15 décembre, nous laissions dans l'est le séduisant archipel de la Société et la gracieuse Tahiti, la reine du Pacifique. J'aperçus le matin, à quelques milles sous le vent, les sommets élevés de cette île. Ses eaux fournirent aux tables du bord d'excellents poissons, des maquereaux, des bonites, des albicores et quelques variétés d'un serpent de mer nommé Murenophis. Le Nautilus avait franchi 800 milles. 9 720 milles étaient relevés au loch. Lorsqu'il passa entre l'archipel de Tongatabou, où périrent les équipages de l'Argo, du Port-au-Prince et du Duke of Portland, et l'archipel des navigateurs, où fut tué le capitaine de l'Angle, l'ami de la Pérouse. Puis il eut connaissance de l'archipel Viti, où les sauvages massacrèrent les matelots de l'Union et le capitaine Bureau de Nantes, commandant l'aimable Joséphine. Cet archipel, qui se prolonge sur une étendue de 100 lieues du nord au sud et sur 90 lieues de l'est à l'ouest, est compris entre 6 degrés et 2 degrés de latitude sud, 174 degrés et 179 degrés de longitude ouest. Il se compose d'un certain nombre d'îles de Viti-le-Voux, de Vanua-le-Voux, de Candubon. Ce fut Tasman qui découvrit ce groupe en 1643, l'année même où Torricelli inventait le baromètre et où Louis XIV montait sur le trône. Je laisse à penser lequel de ces trois faits fut le plus utile à l'humanité. Vinrent ensuite Cook en 1714, D'Entrecasteaux en 1793 et enfin Dumont-d'Urville en 1827, qui débrouilla tout le chaos géographique de cet archipel. Le Nautilus s'approcha de la baie de Vaïlia, théâtre des terribles aventures de ce capitaine Dillon, qui, le premier, éclaira le mystère du naufrage de la Pérouse. Cette baie, draguée à plusieurs reprises, fournit abondamment des huîtres excellentes. Nous en mangeâmes immodérément après les avoir ouvertes sur notre table même, suivant le précepte de Sénèque. Ces mollusques appartenaient à l'espèce connue sous le nom d'Ostrea lamellosa, qui est très commune en Corse. Ce banc de Vaïlea devait être considérable et, certainement, dans des causes multiples de destruction, ces agglomérations finiraient par combler les baies, puisque l'on compte jusqu'à 2 millions d'œufs dans un seul individu. Et si maître Ned Land n'eut pas à se repentir de sa gloutonnerie en cette circonstance, c'est que l'huître est le seul mets qui ne provoque jamais d'indigestion. En effet, il ne faut pas moins de 16 douzaines de ces mollusques acéphales pour fournir les 315 grammes de substance azotée nécessaire à la nourriture d'un seul homme. Le 25 décembre, le Nautilus naviguait au milieu de l'archipel des Nouvelles Hébrides que Quiros découvrit en 1606, que Bougainville explora en 1768 et auquel Cook donna son nom actuel en 1773. Ce groupe se compose principalement de 9 grandes îles et forme une bande de 120 lieues du nord-nord-ouest au sud-sud-est, comprise entre 15 degrés et 2 degrés de latitude sud et entre 164 degrés et 168 degrés de longitude. Nous passâmes assez près de l'île d'Aourou, qui, au moment des observations de midi, m'apparut comme une masse de bois vert, dominée par un pic d'une grande hauteur. Ce jour-là, c'était Noël, et Ned Land me sembla regretter vivement la célébration du Christmas, la véritable fête de famille dont les protestants sont fanatiques. Je n'avais pas aperçu le capitaine Nemo depuis une huitaine de jours quand le 27 au matin, il entra dans le grand salon, ayant toujours l'air d'un homme qui vous a quitté depuis 5 minutes. J'étais occupé à reconnaître sur le planisphère la route du Nautilus. Le capitaine s'approcha, posa un doigt sur un point de la carte et prononça ce seul mot. « Vanikoro ». C'était le nom des îlots sur lesquels vinrent se perdre les vaisseaux de la Pérouse. Je me relevai subitement. « Le Nautilus nous porte à Vanikoro ?» demandai-je. « Oui, monsieur le professeur, » répondit le capitaine. « Et je pourrais visiter ces îles célèbres où se brisèrent la boussole et l'astrolabe ?»« Si cela vous plaît, monsieur le professeur. » « Quand serons-nous à Vanikoro ?»« Nous y sommes, monsieur le professeur. » Suivi du capitaine Nemo, je montai sur la plateforme et de là mes regards parcoururent avidement l'horizon. Dans le nord-est émergeaient 2 îles volcaniques d'inégale grandeur, entourées d'un récif de coraux qui mesurait 40 000 de circuit. Nous étions en présence de l'île de Vanikoro proprement dite, à laquelle Dumont d'Urville imposa le nom d'île de la recherche, et précisément devint le petit havre de Vanu, situé par 16,4 degrés de latitude sud et 164,32 degrés de longitude est. Les terres semblaient recouvertes de verdure depuis la plage jusqu'au sommet de l'intérieur que dominait le mont Kapogo, haut de 476 toises. Le Nautilus, après avoir franchi la ceinture extérieure de roches par une étroite passe, se trouva en dedans des brisants où la mer avait une profondeur de 30 à 40 brasses. Sous le verdoyant ombrage des palétuviers, j'aperçus une 12aine de sauvages qui montrèrent une extrême surprise à notre approche. Dans ce long corps noirâtre, s'avançant à fleur d'eau, ne voyait-il pas quelque cétacé formidable dont il devait se défier? En ce moment, le capitaine Nemo me demanda ce que je savais du naufrage de la Pérouse. « Ce que tout le monde en sait, capitaine, lui répondis-je. »« Et pourriez-vous m'apprendre ce que tout le monde en sait ?» ajouta-t-il d'un ton un peu ironique. « Très facilement. » Je lui racontai ce que les derniers travaux de Dumont d'Urville avaient fait connaître, travaux dont voici le résumé très succinct. La Pérouse et son second, le capitaine de Langle, furent envoyés par Louis XVI en 1785 pour accomplir un voyage de circumnavigation. Ils montaient les corvettes La Boussole et l'Astrolabe, qui ne reparurent plus. En 1791, le gouvernement français, justement inquiet du sort des 2 corvettes, arma 2 grandes flûtes, la Recherche et l'Espérance. Ces flûtes quittèrent Brest le 28 septembre sous les ordres de Bruny d'Entrecasteaux. 2 mois après, on apprenait, par la déposition d'un certain Bowen, commandant de l'Albermale, que des débris de navires avaient été vus sur les côtes de la Nouvelle-Géorgie. Mais d'Entrecasteaux, ignorant cette communication, assez incertaine d'ailleurs, se dirigea vers les îles de l'Amirauté, désignées dans un rapport du capitaine Hunter comme étant le lieu du naufrage de la Pérouse. Ses recherches furent vaines. L'Espérance et la Recherche passèrent même devant Vanikoro sans s'y arrêter, et, en somme, ce voyage fut très malheureux, car il coûta la vie à d'Entrecasteaux, à 2 de ses seconds et à plusieurs marins de son équipage. Ce fut un vieux routier du Pacifique, le capitaine Dillon, qui le premier retrouva les traces indiscutables des naufragés. Le 15 mai 1824, son navire, le Saint-Patrick, passa près de l'île de Tikopia, l'une des nouvelles Hébrides. Là, un lascar l'ayant accosté dans une pirogue, lui vendit une poignée d'épée en argent qui portait l'empreinte de caractère gravé au burin. Ce lascar prétendait, en outre, que 6 ans auparavant, pendant un séjour à Vanikoro, il avait vu 2 Européens qui appartenaient à des navires échoués depuis de longues années sur les récifs de l'île. Dillon devina qu'il s'agissait des navires de la Pérouse, dont la disparition avait ému le monde entier. Il voulut gagner Vanikoro où, suivant le lascar, se trouvaient de nombreux débris du naufrage. Mais les vents et les courants l'en empêchèrent. Dillon revint à Calcutta. Là, il sut intéresser à sa découverte la Société asiatique et la Compagnie des Indes. Un navire auquel on donna le nom de La Recherche fut mis à sa disposition et il partit le 23 janvier 1827 accompagné d'un agent français. La Recherche, après avoir relâché sur plusieurs points du Pacifique, mouilla devant Vanikoro le 7 juillet 1827, dans ce même havre de Vanou, où le Nautilus flottait en ce moment. Là, Dillon recueillit de nombreux restes du naufrage, des ustensiles de fer, des ancres, des estropes de poulies, des pierriers, un boulet de 18, des débris d'instruments d'astronomie, un morceau de couronnement et une cloche en bronze, portant cette inscription « Bazin m'a fait », marque de la fonderie de l'arsenal de Brest vers 1785. Le doute n'était donc plus possible. Dillon, complétant ses renseignements, resta sur les lieux du sinistre jusqu'au mois d'octobre. Puis il quitta Vanikoro, se dirigea vers la Nouvelle-Zélande, mouilla à Calcutta le 7 avril 1828 et revint en France où il fut très sympathiquement accueilli par Charles X. Mais, à ce moment, Dumont d'Urville, sans avoir eu connaissance des travaux de Dillon, était déjà parti pour chercher ailleurs le théâtre du naufrage. Et, en effet, on avait appris par les rapports d'un baleinier que des médailles et une croix de Saint-Louis se trouvaient entre les mains des sauvages de la Louisiade et de la Nouvelle-Calédonie. Dumont d'Urville, commandant l'Astrolabe, avait donc pris la mer, et 2 mois après que Dillon venait de quitter Vanikoro, il mouillait devant Hobart Town. Là, il avait connaissance des résultats obtenus par Dillon. De plus, il apprenait qu'un certain James Hobbs, second de l'Union, de Calcutta, avait pris terre sur une île située par 8 degrés 18 de latitude sud et 156 degrés 30 de longitude est, avait remarqué des barres de fer et des étoffes rouges dont se servaient les naturels de ces parages. Dumont d'Urville, assez perplexe, et ne sachant s'il devait ajouter foi à ces récits rapportés par des journaux peu dignes de confiance, se décida cependant à se lancer sur les traces de Dillon. Le 10 février 1828, l'astrolabe se présenta devant Tikopia, prit pour guide et interprète un déserteur fixé sur cette île, fit route vers Vanikoro, en eut connaissance le 12 février, prolongea ses récifs jusqu'au 14, et le 20 seulement il mouilla au-dedans de la barrière dans le havre de Vanou. Le 23, plusieurs des officiers firent le tour de l'île et rapportèrent quelques débris peu importants. Les naturels, adoptant un système de dénégation et de faux fuyants, refusaient de les mener sur les lieux du sinistre. Cette conduite très louche laissa croire qu'ils avaient maltraité les naufragés et, en effet, il semblait craindre que Dumont d'Urville ne fût venu venger la Pérouse et ses infortunés compagnons. Cependant, le 26, décidé par des présents et comprenant qu'il n'avait à craindre aucune représaille, ils conduisirent le second, M. Jacquinot, sur le théâtre du naufrage. Là, par 3 ou 4 brasses d'eau, entre les récifs Pacou et Vanou, gisaient des ancres, des canons, des saumons de fer et de plomb, empâtés dans des concrétions calcaires. La chaloupe et la baleinière de l'astrolabe furent dirigées vers cet endroit, et non sans de longues fatigues, leurs équipages parvinrent à retirer une ancre pesant 1800 livres, un canon de 8 en fonte, un saumon de plomb et 2 pierriers de cuivre. Dumont d'Urville, interrogeant les naturels, apprit aussi que la Pérouse, après avoir perdu ses 2 navires sur les récifs de l'île, avait construit un bâtiment plus petit pour aller se perdre une seconde fois. Où, on ne savait. Le commandant de l'astrolabe fit alors élever, sous une touffe de manglier, un cénotaphe à la mémoire du célèbre navigateur et de ses compagnons. Ce fut une simple pyramide quadrangulaire, assise sur une base de coraux, et dans laquelle n'entra aucune ferrure qui pût tenter la cupidité des naturels. Puis Dumont d'Urville voulut partir, mais ses équipages étaient minés par les fièvres, de ses côtes malsaines, et, très malade lui-même, il ne put appareiller que le 17 mars. Cependant, le gouvernement français, craignant que Dumont d'Urville ne fût pas au courant des travaux de Dillon, avait envoyé à Vignicorot la corvette La Bayonnaise, commandée par Le Guaran de Tromelin, qui était en station sur la côte ouest de l'Amérique. La Bayonnaise mouilla devant Vignicorot quelques mois après le départ de l'Astrolabe, ne trouva aucun document nouveau, mais constata que les sauvages avaient respecté le mausolée de la Pérouse. Telle est la substance du récit que je fis au capitaine Nemo. Aussi, me dit-il, on ne sait encore où est allé périr ce troisième navire construit par les naufragés sur l'île de Vignicorot? On ne sait. Le capitaine Nemo ne répondit rien et me fit signe de le suivre au grand salon. Le Nautilus s'enfonça de quelques mètres au-dessous des flots, et les panneaux s'ouvrirent. Je me précipitai vers la vitre, et sous ces empattements de coraux revêtus de fongies, de siphonules, d'alcyons, de cariophyllées, à travers des myriades de poissons charmants, des girelles, des glyphisidons, des phonphérides, des diacopes, des holocentes, je reconnus certains débris que les dragues n'avaient pu arracher des étriers de fer, des ancres, des canons, des boulets, une garniture de cabestan, une étrave, tous objets provenant des navires naufragés et maintenant tapissés de fleurs vivantes. Et pendant que je regardais ces épaves désolées, le capitaine Nemo me dit d'une voix grave. Le commandant La Pérouse partit le 7 décembre 1785 avec ses navires La Boussole et l'Astrolabe. Il mouilla d'abord à Botany Bay, visita l'archipel des Amis, la Nouvelle-Calédonie, se dirigea vers Santa Cruz et relâcha à Namuka, l'une des îles du groupe Apai. Puis, ses navires arrivèrent sur les récifs inconnus de Vignicorot. La Boussole qui marchait en avant toucha sur la côte méridionale. L'Astrolabe vint à son secours et s'échoua de même. Le premier navire se détruisit presque immédiatement. Le second, engravé sous le vent, résista quelques jours. Les naturels firent assez bon accueil aux naufragés. Ceux-ci s'installèrent dans l'île et construisirent un bâtiment plus petit, avec les débris des deux grands. Quelques matelots restèrent volontairement à Vignicorot. Les autres, affaiblis, malades, partirent avec La Pérouse. Ils se dirigèrent vers les îles Salomon, et ils périrent, corps et biens, sur la côte occidentale de l'île principale du groupe, entre les caps Déception et Satisfaction. « Et comment le savez-vous ? » m'écriai-je. Voici ce que j'ai trouvé sur le lieu même de ce dernier naufrage. Le capitaine Nemo me montra une boîte de fer blanc, estampillée aux armes de France, et toute corrodée par les eaux salines. Il l'ouvrit, et je vis une liasse de papier jauni mais encore lisible. C'étaient les instructions mêmes du ministre de la Marine au commandant La Pérouse, annotées en marge de la main de Louis XVI. « Ah, c'est une belle mort pour un marin !» dit alors le capitaine Nemo. C'est une tranquille tombe que cette tombe de corail. Et fasse le ciel que, mes compagnons et moi, nous n'en ayons jamais d'autre.
Chapitre 20. Le détroit de Torrès. Pendant la nuit du 27 au 28 décembre, le Nautilus abandonna les parages de Vignicorot avec une vitesse excessive. Sa direction était sud-ouest et en trois jours, il franchit les 750 lieues qui séparent le groupe de La Pérouse de la pointe sud-est de la Papouasie. Le 1er janvier 1868, de grand matin, Conseil me rejoignit sur la plateforme. « Monsieur, me dit ce brave garçon, monsieur me permettra-t-il de lui souhaiter une bonne année ?»« Comment donc, Conseil, mais exactement comme si j'étais à Paris, dans mon cabinet du Jardin des Plantes. J'accepte tes vœux et je t'en remercie. Seulement, je te demanderai ce que tu entends par une bonne année, dans les circonstances où nous nous trouvons. Est-ce l'année qui amènera la fin de notre emprisonnement, ou l'année qui verra se continuer cet étrange voyage ?»« Ma foi, répondit Conseil, je ne sais trop que dire à monsieur. Il est certain que nous voyons de curieuses choses et que, depuis deux mois, nous n'avons pas eu le temps de nous ennuyer.
la dernière merveille est toujours la plus étonnante. Et si cette progression se maintient, je ne sais pas comment cela finira. M'est avis que nous ne retrouverons jamais une occasion semblable. Jamais, Conseil. En outre, M. Nemo, qui justifie bien son nom latin, n'est pas plus gênant que s'il n'existait pas.
Comme tu le dis, Conseil.
Je pense donc, n'en déplaise à monsieur, qu'une bonne année serait une année qui nous permettrait de tout voir.
De tout voir, Conseil? Ce serait peut-être long.
Mais qu'en pense Ned Land?
Ned Land pense exactement le contraire de moi, répondit Conseil.
C'est un esprit positif et un estomac impérieux. Regarder les poissons et toujours en manger ne lui suffit pas. Le manque de vin, de pain, de viande, cela ne convient pas à un digne Saxon, auquel les beefsteaks sont familiers, et que le brandy et le gin, pris dans une proportion modérée, n'effraient guère.
Pour mon compte, Conseil, ce n'est point là ce qui me tourmente, et je m'accommode très bien du régime du bord.
Moi de même, répondit Conseil, aussi je pense autant à rester que Maître Land à prendre la fuite. Donc, si l'année qui commence n'est pas bonne pour moi, elle le sera pour lui, et réciproquement. De cette façon, il y aura toujours quelqu'un de satisfait. Enfin, pour conclure, je souhaite à monsieur ce qui fera plaisir à monsieur.
Merci, Conseil. Seulement, je te demanderai de remettre à plus tard la question des étrennes, et de les remplacer provisoirement par une bonne poignée de main. Je n'ai que cela sur moi.
Monsieur n'a jamais été si généreux, répondit Conseil. Et là-dessus, le brave garçon s'en alla. Le 2 janvier, nous avions fait 11 340 milles, soit 5 250 lieues, depuis notre point de départ dans les mers du Japon. Devant l'éperon du Nautilus s'étendaient les dangereux parages de la mer de Corail, sur la côte nord-est de l'Australie. Notre bateau prolongeait à une distance de quelques milles ce redoutable banc sur lequel les navires de Cook faillirent se perdre le 10 juin 1770. Le bâtiment que montait Cook donna sur un roc, et s'il ne coula pas, ce fut grâce à cette circonstance que le morceau de corail détaché au choc resta engagé dans la coque entr'ouverte. 2 jours après avoir traversé la mer de corail, le 4 janvier, nous eûmes connaissance des côtes de la Papouasie. À cette occasion, le capitaine Nemo m'apprit que son intention était de gagner l'océan Indien par le détroit de Torrès. Sa communication se borna là. Ned vit avec plaisir que cette route le rapprochait des mers européennes. Ce détroit de Torrès est regardé comme non moins dangereux par les écueils dont il est hérissé que par les sauvages habitants qui fréquentent ses côtes. Il sépare de la Nouvelle-Hollande la grande île de la Papouasie, nommée aussi Nouvelle-Guinée. La Papouasie a 400 lieues de long sur 130 lieues de large et une superficie de 4000 lieues géographiques. Elle est située en latitude entre 0°19 et 10°2 sud et en longitude entre 128°23 et 146°15. À midi, pendant que le second prenait la hauteur du soleil, j'aperçus les sommets des monts Arfalx, élevés par plans et terminés par des pitons aigus. Cette terre, découverte en 1511 par le portugais Francisco Serrano, fut visitée successivement par Don José de Meneses en 1526, par Grijalva en 1527, par le général espagnol Alvar de Saavedra en 1528, puis Ruy Gortés en 1545, par le hollandais Schouten en 1616, par Nicolas Struik en 1753, par Tasman, Darmier, Fumel, Carteret, Edwards, Bougainville, Cook, Forrest, McClure, par D'Entrecasteux en 1792, par Dupéré en 1823 et par Dumont d'Urville en 1827. C'est le foyer des Noirs qui occupe toute la Malaisie, a dit M. de Rienzi, et je ne doutais guère que les hasards de cette navigation allaient me mettre en présence des redoutables Andamènes. Le Nautilus se présenta donc à l'entrée du plus dangereux détroit du globe, de celui que les plus hardis navigateurs osent à peine franchir. Détroit que Luis Paz de Torres affronta en revenant des mers du Sud dans la Mélanésie, et dans lequel, en 1840, les corvettes échouées de Dumont-Durville furent sur le point de se perdre corps et biens. Le Nautilus lui-même, supérieur à tous les dangers de la mer, allait cependant faire connaissance avec les récifs coralliens. Le détroit de Torres a environ 34 lieues de large, mais il est obstrué par une innombrable quantité d'îles, d'îlots, de brisants, de rochers, qui rendent sa navigation presque impraticable. En conséquence, le capitaine Nemo prit toutes les précautions voulues pour le traverser. Le Nautilus, flottant à fleur d'eau, s'avançait à une allure modérée. Son hélice, comme une queue de cétacé, battait les flots avec lenteur. Profitant de cette situation, mes deux compagnons et moi, nous avions pris place sur la plateforme toujours déserte. Devant nous s'élevait la cage du timonier, et je me trompe fort où le capitaine Nemo devait être là, dirigeant lui-même le Nautilus. Il était alors 3 heures après-midi. Le flot se cassait, la mer était presque pleine. Le Nautilus s'approcha de l'île Géboroar, que je vois encore avec sa remarquable lisière de Pandanus. Nous la rangions à moins de 2 milles. Soudain, un choc me renversa. Le Nautilus venait de toucher un écueil, et il demeura immobile, donnant une légère gîte sur bâbord. Quand je me relevai, j'aperçus sur la plateforme le capitaine Nemo et son second. Ils examinaient la situation du navire, échangeant quelques mots dans leur incompréhensible idiome. Voici quelle était cette situation. À 2 milles par tribord apparaissait l'île Géboroar, dont la côte s'arrondissait du nord à l'ouest comme un immense bras. Vers le sud et l'est se montraient déjà quelques têtes de coraux que le jusant laissait à découvert. Nous nous étions échoués au plein, et dans une de ces mers où les marées sont médiocres, circonstance fâcheuse pour le renflouage du Nautilus. Cependant, le navire n'avait aucunement souffert tant sa coque était solidement liée. Mais s'il ne pouvait ni couler ni s'ouvrir, il risquait fort d'être à jamais attaché sur ses écueils. Et alors, c'en était fait de l'appareil sous-marin du capitaine Nemo. Je réfléchissais ainsi quand le capitaine Nemo, froid et calme, toujours maître de lui, ne paraissant ni ému ni contrarié, s'approcha. « Un accident ?» lui dis-je. « Non, un incident, » me répondit-il. « Mais un incident, » répliquai-je, « qui vous obligera peut-être à redevenir un habitant de cette terre que vous fuyez. » Le capitaine Nemo me regarda d'un air singulier et fit un geste négatif. C'était me dire assez clairement que rien ne le forcerait jamais à remettre les pieds sur un continent. Puis il me dit, « D'ailleurs, monsieur Aronnax, le Nautilus n'est pas en perdition. Il vous transportera encore au milieu des merveilles de l'océan. Notre voyage ne fait que commencer, et je ne désire pas me priver si vite de l'honneur de votre compagnie. » Cependant, capitaine Nemo, repris-je sans relever la tournure ironique de cette phrase, le Nautilus s'est échoué au moment de la pleine mer. Or, les marées ne sont pas fortes dans le Pacifique, et si vous ne pouvez pas délester le Nautilus, ce qui me paraît impossible, je ne vois pas comment il sera renfloué. Les marées ne sont pas fortes dans le Pacifique, vous avez raison, monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo. Mais au détroit de Torres, on trouve encore une différence d'un mètre et demi entre le niveau des hautes et des basses mers. C'est aujourd'hui le 4 janvier, et dans 5 jours la pleine lune. Or, je serais bien étonné si ce complaisant satellite ne soulève pas suffisamment ses masses d'eau et ne me rend pas un service que je ne veux devoir qu'à lui seul. Ceci dit, le capitaine Nemo, suivi de son second, redescendit à l'intérieur du Nautilus. Quant au bâtiment, il demeurait immobile, comme si les polypes coralliens l'eussent déjà maçonné dans leur indestructible ciment. « Eh bien, monsieur, me dit Ned Land, qui vint à moi après le départ du capitaine. « Eh bien, ami Ned, nous attendrons tranquillement la marée du neuf, car il paraît que la lune aura la complaisance de nous remettre à flot. »«
Tout simplement ?»«
Tout simplement. » Et ce capitaine ne va pas mouiller ses ancres au large, mettre sa machine sur ses chaînes et tout faire pour se déhaler,
puisque la marée suffira, répondit simplement Conseil.
Le Canadien regarda Conseil, puis il haussa les épaules. C'était le marin qui parlait en lui.
Monsieur, répliqua-t-il, vous pouvez me croire quand je vous dis que ce morceau de fer ne naviguera plus jamais, ni sur, ni sous les mers. Il n'est bon qu'à vendre au poids. Je pense donc que le moment est venu de fausser compagnie au capitaine Nemo.
Ami Ned, répondis-je, je ne désespère pas comme vous de ce vaillant Nautilus. Et dans 4 jours, nous saurons à quoi nous en tenir sur les marées du Pacifique. D'ailleurs, le conseil de fuir pourrait être opportun si nous étions en vue des côtes de l'Angleterre ou de la Provence. Mais dans les paresses de la Papouasie, c'est autre chose. Et il sera toujours temps d'en venir à cette extrémité si le Nautilus ne parvient pas à se relever, ce que je regarderai comme un événement grave.
Mais ne saurait-on tâter au moins de ce terrain, reprit Ned Land. Voilà une île. Sur cette île, il y a des arbres. Sous ces arbres, des animaux terrestres, des porteurs de côtelettes et de rosbif, auxquels je donnerais volontiers quelques coups de dents.
Ici, l'ami Ned a raison, dit Conseil, et je me range à son avis. Monsieur ne pourrait-il obtenir de son ami le capitaine Nemo de nous transporter à terre, ne fût-ce que pour ne pas perdre l'habitude de fouler du pied les parties solides de notre planète ?
Je peux le lui demander, répondis-je, mais il refusera.
Que monsieur se risque, dit Conseil, et nous saurons à quoi nous en tenir sur l'amabilité du capitaine.
À ma grande surprise, le capitaine Nemo m'accorda la permission que je lui demandais. Il le fit même avec beaucoup de grâce et d'empressement, sans avoir exigé de moi la promesse de revenir à bord. Mais une fuite à travers les terres de la Nouvelle-Guinée eût été très périlleuse, et je n'aurais pas conseillé à Ned Land de la tenter. Mieux valait être prisonnier à bord du Nautilus que de tomber entre les mains des naturels de la Papouasie. Le canot fut mis à notre disposition pour le lendemain matin. Je ne cherchais pas à savoir si le capitaine Nemo nous accompagnerait. Je pensais même qu'aucun homme de l'équipage ne nous conduirait, et que Ned Land serait seul chargé de diriger l'embarcation. D'ailleurs, la terre se trouvait à 2 milles au plus, et ce n'était qu'un jeu pour le Canadien de mener ce léger canot entre les lignes de récifs si fatales aux grands navires. Le lendemain 5 janvier, le canot déponté fut arraché de son alvéole et lancé à la mer du haut de la plateforme. 2 hommes suffirent à cette opération. Les avirons étaient dans l'embarcation, et nous n'avions plus qu'à y prendre place. À 8 heures, armés de fusils électriques et de haches, nous débordions du Nautilus. La mer était assez calme. Une petite brise soufflait de terre. Conseil et moi, placés aux avirons, nous nagions vigoureusement et Ned gouvernait dans les étroites passes que les brisants laissaient derrière eux. Le canot se maniait bien et filait rapidement. Ned Land ne pouvait contenir sa joie. C'était un prisonnier échappé de sa prison, et il ne songeait guère qu'il lui faudrait y rentrer.
« De la viande, répétait-il, nous allons donc manger de la viande, et quelle viande, du véritable gibier. Pas de pain, par exemple. Je ne dis pas que le poisson ne soit une bonne chose, mais il ne faut pas en abuser, et un morceau de fraîche venaison, grillé sur des charbons ardents, variera agréablement notre ordinaire. »
Gourmand, répondait Conseil, il m'en fait venir l'eau à la bouche. Il reste à savoir, dis-je, si ces forêts sont giboyeuses, et si ce gibier n'y est pas de telle taille qu'il ne puisse lui-même chasser le chasseur.
Bon, monsieur Aronnax, répondit le Canadien, dont les dents semblaient être affûtées comme un tranchant de hache, mais je mangerai du tigre, de la loyau de tigre, s'il n'y a pas d'autres quadrupèdes dans cette île.
La minède est inquiétante, répondit Conseil.
Quel qu'il soit, reprit Ned Land, tout animal à 4 pattes, sans plumes,
ou à deux pattes avec plumes sera salué de mon premier coup de fusil.
« Bon, répondis-je, voilà les imprudences de maître Ned Land qui vont recommencer. »
« N'ayez pas peur, monsieur Aronnax, répondit le Canadien, et nagez ferme. Je ne vous demande pas 25 minutes pour vous offrir un mets de ma façon. »
À 8h30, le canot du Nautilus venait s'échouer doucement sur une grève de sable, après avoir heureusement franchi l'anneau coralligène qui entourait l'île de Géborroir.
Chapitre 21. Quelques jours à terre. Je fus assez vivement impressionné en touchant terre. Ned Land essayait le sol du pied comme pour en prendre possession. Il n'y avait pourtant que 2 mois que nous étions, suivant l'expression du capitaine Nemo, les passagers du Nautilus, c'est-à-dire en réalité les prisonniers de son commandant. En quelques minutes, nous fûmes à une portée de fusil de la côte. Le sol était presque entièrement madréporique, mais certains lits de torrents desséchés, semés de débris granitiques, démontraient que cette île était due à une formation primordiale. Tout l'horizon se cachait derrière un rideau de forêts admirables. Des arbres énormes, dont la taille atteignait parfois 200 pieds, se reliaient l'un à l'autre par des guirlandes de lianes, vrais hamacs naturels que berçait une brise légère. C'étaient des mimosas, des ficus, des casuarinas, des tecs, des hibiscus, des pandanus, des palmiers mélangés à profusion, et, sous l'abri de leurs voûtes verdoyantes, au pied de leurs stipes gigantesques, croissaient des orchidées, des légumineuses et des fougères. Mais sans remarquer tous ces beaux échantillons de la flore papouasienne, le Canadien abandonna l'agréable pour l'utile. Il aperçut un cocotier, abattit quelques-uns de ses fruits, les brisa, et nous bûmes leur lait, nous mangeâmes leur amande, avec une satisfaction qui protestait contre l'ordinaire du Nautilus.
« Excellent, disait Ned Land. Exquis, répondait Conseil.
« Et je ne pense pas, dit le Canadien, que votre Nemo s'oppose à ce que nous introduisions une cargaison à son bord.
« Je ne le crois pas, répondis-je, mais il ne voudra pas goûter.
« Tant pis pour lui, dit Conseil.
« Et tant mieux pour nous, riposta Ned Land. Il en restera davantage.
« Un mot seulement, maître Land, dis-je au harponneur, qui se disposait à ravager un autre cocotier. « Le coco est une bonne chose, mais avant d'en remplir le canot, il me paraît sage de reconnaître si l'île ne produit pas quelque substance non moins utile. Des légumes frais seraient bien reçus à l'office du Nautilus.
« Monsieur a raison, répondit Conseil, et je propose de réserver 3 places dans notre embarcation, l'une pour les fruits, l'autre pour les légumes, et la troisième pour la venaison, dont je n'ai pas encore entrevu le plus mince échantillon.
« Conseil, il ne faut désespérer de rien, répondit le Canadien.
Continuons donc notre excursion, repris-je, mais ayons l'œil aux aguets. Quoique l'île paraisse inhabitée, elle pourrait renfermer cependant quelques individus qui seraient moins difficiles que nous sur la nature du gibier.
Hé hé, fit Ned Land, avec un mouvement de mâchoire très significatif.
Eh bien, Ned, s'écria Conseil.
Ma foi, riposta le Canadien, je commence à comprendre les charmes de l'anthropophagie.
Ned, Ned, que dites-vous là? Répliqua Conseil.
Vous, anthropophage, mais je ne serai plus en sûreté près de vous, moi qui partage votre cabine. Devrais-je donc me réveiller un jour à demi dévoré?
Ami Conseil, je vous aime beaucoup, mais pas assez pour vous manger sans nécessité.
Je ne m'y fie pas, répondit Conseil.
En chasse. Il faut absolument abattre quelques gibiers pour satisfaire ce cannibale. Ou bien, l'un de ces matins, monsieur ne trouvera plus que des morceaux de domestique pour le servir.
Tandis que s'échangeaient ces divers propos, nous pénétrions sous les sombres voûtes de la forêt, et pendant 2 heures, nous la parcourûmes en tous sens. Le hasard servit à souhait cette recherche de végétaux comestibles, et l'un des plus utiles produits des zones tropicales nous fournit un aliment précieux qui manquait à bord. Je veux parler de l'arbre à pain, très abondant dans l'île de Géborroir, et j'y remarquai principalement cette variété dépourvue de graines qui porte en malais le nom de rima. Cet arbre se distinguait des autres arbres par un tronc droit et haut de 40 pieds. Sa cime, gracieusement arrondie et formée de grandes feuilles multilobées, désignait suffisamment aux yeux d'un naturaliste cet Arthrocarpus qui a été très heureusement naturalisé aux îles Mascareignes. De sa masse de verdure se détachaient de gros fruits globuleux, larges d'un décimètre et pourvus extérieurement de rugosités qui prenaient une disposition hexagonale. Utile végétal dont la nature a gratifié les régions auxquelles le blé manque et qui, sans exiger aucune culture, donne des fruits pendant 8 mois de l'année. Ned Land les connaissait bien, ces fruits. Il en avait déjà mangé pendant ses nombreux voyages, et il savait préparer leur substance comestible. Aussi, leur vue excita-t-elle ses désirs, et il n'y put tenir plus longtemps. « Monsieur, me dit-il, que je meurs si je ne goûte pas un peu de cette pâte de l'arbre à pain. »« Goûtez, ami Ned, goûtez à votre aise. Nous sommes ici pour faire des expériences, faisons-les. » »« Ce ne sera pas long, » répondit le Canadien. Et armé d'une lentille, il alluma un feu de bois mort qui pétilla joyeusement. Pendant ce temps, Conseil et moi, nous saisissions les meilleurs fruits de l'Arthrocarpus. Quelques-uns n'avaient pas encore atteint un degré satisfaisant de maturité, et leur peau épaisse recouvrait une pulpe blanche, mais peu fibreuse. D'autres, en très grand nombre, jaunâtres et gélatineux, n'attendaient que le moment d'être cueillis. Ces fruits ne renfermaient aucun noyau. Conseil en apporta une douzaine à Ned Land, qui les plaça sur le feu de charbon, après les avoir coupés en tranches épaisses, et ce faisant, il répétait toujours « Vous verrez, monsieur, comme ce pain est bon. » « Surtout quand on en est privé depuis longtemps, » dit Conseil. « Ce n'est même plus du pain, » ajouta le Canadien. « C'est une pâtisserie délicate. Vous n'en avez jamais mangé, monsieur ?»« Non, Ned. » « Eh bien, préparez-vous à absorber une chose succulente. Si vous n'y revenez pas, je ne suis plus le roi des harponneurs. » Au bout de quelques minutes, la partie des fruits exposés au feu fut complètement charbonnée. À l'intérieur apparaissait une pâte blanche, sorte de mie tendre, dont la saveur rappelait celle de l'artichaut. Il faut l'avouer, ce pain était excellent, et j'en mangeais avec grand plaisir. Malheureusement, dis-je, une telle pâte ne peut se garder fraîche, et il me paraît inutile d'en faire une provision pour le bord. « Par exemple, monsieur, s'écria Ned Land, vous parlez là comme un naturaliste, mais moi je vais agir comme un boulanger. Conseil, faites une récolte de ces fruits, que nous reprendrons à notre retour. » « Et comment les préparerez-vous ? » demandai-je au Canadien. « En fabriquant avec leur pulpe une pâte fermentée, qui se gardera indéfiniment et sans se corrompre. Lorsque je voudrai l'employer, je la ferai cuire à la cuisine du bord, et malgré sa saveur un peu acide, vous la trouverez excellente. » Alors, maître Ned, je vois qu'il ne manque rien à ce pain. « Si, monsieur le professeur, répondit le Canadien, il y manque quelques fruits, ou tout au moins quelques légumes. Cherchons les fruits et les légumes. » Lorsque notre récolte fut terminée, nous nous mîmes en route pour compléter ce dîner terrestre. Nos recherches ne furent pas vaines, et vers midi nous avions fait une ample provision de bananes. Ces produits délicieux de la zone torride mûrissent pendant toute l'année, et les Malais, qui leur ont donné le nom de pisang, les mangent sans les faire cuire. Avec ces bananes, nous recueillîmes des jacques énormes, dont le goût est très accusé, des mangues savoureuses et des ananas d'une grosseur invraisemblable. Mais cette récolte prit une grande partie de notre temps, que, d'ailleurs, il n'y avait pas lieu de regretter. Conseil observait toujours Ned. Le harponneur marchait en avant, et pendant sa promenade à travers la forêt, il glanait d'une main sûre d'excellents fruits qui devaient compléter sa provision. « Enfin, demanda Conseil, il ne nous manque plus rien, ami Ned. » « fit le Canadien. « Quoi, vous vous plaignez ?»« Tous ces végétaux ne peuvent constituer un repas, » répondit Ned. « C'est la fin d'un repas, c'est un dessert. Mais le potage,
mais le rôti ?
En effet, dis-je, Ned nous avait promis des côtelettes qui me semblent fort problématiques.
Monsieur, répondit le Canadien, non seulement la chasse n'est pas finie, mais elle n'est même pas commencée.
Patience, nous finirons bien par rencontrer quelque animal de plume ou de poil, et si ce n'est pas dans cet endroit, ce sera dans un autre.
Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, ajouta Conseil, car il ne faut pas trop s'éloigner, je propose même de revenir au canot.
Quoi, déjà ? S'écria Ned.
Nous devons être de retour avant la nuit, dis-je.
Mais quelle heure est-il donc ? Demanda le Canadien.
2 heures au moins, répondit Conseil.
Comme le temps passe sur le sol ferme, s'écria Maître Ned Land avec un soupir de regret.
En route, répondit Conseil.
Nous revînmes à travers la forêt et nous complétâmes notre récolte en faisant une razzia de choux palmistes qu'il fallut cueillir à la cime des arbres, de petits haricots que je reconnus pour être des abrous des malais, et d'ignames d'une qualité supérieure. Nous étions surchargés quand nous arrivâmes au canot. Cependant, Ned Land ne trouvait pas encore sa provision suffisante. Mais le sort le favorisa. Au moment de s'embarquer, il aperçut plusieurs arbres, hauts de 25 à 30 pieds, qui appartenaient à l'espèce des palmiers. Ces arbres, aussi précieux que l'artocarpus, sont justement comptés parmi les plus utiles produits de la Malaisie. C'étaient des sagoutiers, végétaux qui croissent sans culture, se reproduisant, comme les mûriers, par leurs rejetons et leurs graines. Ned Land connaissait la manière de traiter ces arbres. Il prit sa hache et, la maniant avec une grande vigueur, il eut bientôt couché sur le sol 2 ou 3 sagoutiers, dont la maturité se reconnaissait à la poussière blanche qui saupoudrait leurs palmes. Je le regardais faire plutôt avec les yeux d'un naturaliste qu'avec les yeux d'un homme affamé. Il commença par enlever à chaque tronc une bande d'écorce, épaisse d'un pouce, qui recouvrait un réseau de fibres allongées formant d'inextricables nœuds que mastiquait une sorte de farine gommeuse. Cette farine, c'était le sagou, substance comestible, qui sert principalement à l'alimentation des populations mélanésiennes. Ned Land se contenta pour le moment de couper ses troncs par morceaux, comme il l'eût fait de bois à brûler, se réservant d'en extraire plus tard la farine, de la passer dans une étoffe afin de la séparer de ses ligaments fibreux, d'en faire évaporer l'humidité au soleil et de la laisser durcir dans des moules. Enfin, à 5 heures du soir, chargés de toutes nos richesses, nous quittions le rivage de l'île et, une demi-heure après, nous accostions le Nautilus. Personne ne parut à notre arrivée. L'énorme cylindre de tôle semblait désert. Les provisions embarquées, je descendis à ma chambre. J'y trouvai mon souper prêt. Je mangeai, puis je m'endormis. Le lendemain, 6 janvier, rien de nouveau à bord. Pas un bruit à l'intérieur, pas un signe de vie. Le canot était resté le long du Nautilus, à la place même où nous l'avions laissé. Nous résolûmes de retourner à l'intérieur de Gueboroar. Ned Land espérait être plus heureux que la veille au point de vue du chasseur et désirait visiter une autre partie de la forêt. Au lever du soleil, nous étions en route. L'embarcation, enlevée par le flot qui portait à terre, atteignit l'île en peu d'instants. Nous débarquâmes et, pensant qu'il valait mieux s'en rapporter à l'instinct du Canadien, nous suivîmes Ned Land, dont les longues jambes menaçaient de nous distancer. Ned Land remonta la côte vers l'ouest, puis, passant à gué quelques lits de torrents, il gagna la haute plaine que bordaient d'admirables forêts. Quelques martins pêcheurs rôdaient le long des cours d'eau, mais ils ne se laissèrent pas approcher. Leur circonspection me prouva que les volatiles savaient à quoi s'en tenir sur des bipèdes de notre espèce, et j'en conclus que si l'île n'était pas habitée, du moins des êtres humains la fréquentaient. Après avoir traversé une assez grande prairie, nous arrivâmes à la lisière d'un petit bois qu'animaient le chant et le vol d'un grand nombre d'oiseaux.
« Ce ne sont encore que des oiseaux, » dit Conseil.
« Mais il y en a qui se mangent, » répondit le harponneur.
« Point, ami Ned, » répliqua Conseil, « car je ne vois là que de simples perroquets.
Ami Conseil, répondit gravement Ned, le perroquet est le faisan de ceux qui n'ont pas autre chose à manger. Et j'ajouterai, dis-je, que cet oiseau convenablement préparé vaut son coup de fourchette. En effet, sous l'épais feuillage de ce bois, tout un monde de perroquets voltigeait de branche en branche, n'attendant qu'une éducation plus soignée pour parler la langue humaine. Pour le moment, ils caquetaient en compagnie de perruches de toutes couleurs, de graves cacatouas, qui semblaient méditer quelques problèmes philosophiques, tandis que les loris d'un rouge éclatant passaient comme un morceau d'étamine emporté par la brise, au milieu de calaos au vol bruyant, de papouas peints des plus fines nuances de l'azur, et de toute une variété de volatiles charmants, mais généralement peu comestibles. Cependant, un oiseau particulier à ces terres et qui n'a jamais dépassé la limite des îles d'Arrou et des îles des Papouas manquait à cette collection. Mais le sort me réservait de l'admirer avant peu. Après avoir traversé un taillis de médiocre épaisseur, nous avions retrouvé une plaine obstruée de buissons. Je vis alors s'enlever de magnifiques oiseaux que la disposition de leurs longues plumes obligeait à se diriger contre le vent. Leur vol ondulé, la grâce de leurs courbes aériennes, le chatoiement de leurs couleurs attiraient et charmaient le regard. Je n'eus pas de peine à les reconnaître. Des oiseaux de paradis, m'écriai-je. Ordre des passereaux, section des clistomores, répondit Conseil. Famille des perdreaux? Demanda Ned Land. Je ne crois pas, maître Land. Néanmoins, je compte sur votre adresse pour attraper un de ces charmants produits de la nature tropicale. On essaiera, monsieur le professeur, quoique l'on soit plus habitué à manier le harpon que le fusil. Les Malais, qui font un grand commerce de ces oiseaux avec les Chinois, ont pour les prendre divers moyens que nous ne pouvions employer. Tantôt, ils disposent des lacets au sommet des arbres élevés que les paradisiers habitent de préférence. Tantôt, ils s'en emparent avec une glue tenace qui paralyse leurs mouvements. Ils vont même jusqu'à empoisonner les fontaines où ces oiseaux ont l'habitude de boire. Quant à nous, nous étions réduits à les tirer au vol, ce qui nous laissait peu de chances de les atteindre. Et, en effet, nous épuisâmes vainement une partie de nos munitions. Vers 11 heures du matin, le premier plan des montagnes qui forment le centre de l'île était franchi, et nous n'avions encore rien tué. La faim nous aiguillonnait. Les chasseurs s'étaient fiés aux produits de leur chasse, et ils avaient eu tort. Très heureusement, Conseil, à sa grande surprise, fit un coup double et assura le déjeuner. Il abattit un pigeon blanc et un ramier, qui, lestement plumés et suspendus à une brochette, rôtirent devant un feu ardent de bois mort. Pendant que ces intéressants animaux cuisaient, Ned prépara des fruits de l'artocarpus. Puis le pigeon et le ramier furent dévorés jusqu'aux os et déclarés excellents. La muscade, dont ils ont l'habitude de se gaver, parfume leur chair et en fait un manger délicieux. C'est comme si les poulardes se nourrissaient de truffes, dit Conseil. Et maintenant, Ned, que vous manque-t-il? Demandai-je au Canadien. Un gibier à quatre pattes, monsieur Aronnax, répondit Ned Land. Tous ces pigeons ne sont que des hors-d'œuvre et amusettes de la bouche. Aussi, tant que je n'aurai pas tué un animal à côtelette, je ne serai pas content. Ni moi, Ned, si je n'attrape pas un paradisier. Continuons donc la chasse, répondit Conseil, mais en revenant vers la mer. Nous sommes arrivés aux premières pentes des montagnes, et je pense qu'il vaut mieux regagner la région des forêts. C'était un avis sensé, et il fut suivi. Après une heure de marche, nous avions atteint une véritable forêt de sagoutiers. Quelques serpents inoffensifs fuyaient sous nos pas. Les oiseaux de paradis se dérobaient à notre approche, et véritablement je désespérais de les atteindre, lorsque Conseil, qui marchait en avant, se baissa soudain, poussa un cri de triomphe et revint à moi, rapportant un magnifique paradisier. « Ah, bravo, Conseil !» m'écriai-je. « Monsieur est bien bon, » répondit Conseil. « Mais non, mon garçon, tu as fait là un coup de maître. Prendre un de ces oiseaux vivants et le prendre à la main. Si monsieur veut l'examiner de près, il verra que je n'ai pas grand mérite.
Et pourquoi, Conseil ?
Parce que cet oiseau est ivre comme une caille.
Ivre ?
Oui, monsieur, ivre des muscades qu'il dévorait sous le muscadier où je l'ai pris.
Voyez, ami Ned, voyez les monstrueux effets de l'intempérance.
Mille diables, riposta le Canadien. Pour ce que j'ai bu de gin depuis 2 mois, ce n'est pas la peine de me le reprocher.
Cependant, j'examinais le curieux oiseau. Conseil ne se trompait pas. Le paradisier, enivré par le suc capiteux, était réduit à l'impuissance. Il ne pouvait voler, il marchait à peine. Mais cela m'inquiéta peu, et je le laissai cuver ses muscades. Cet oiseau appartenait à la plus belle des 8 espèces que l'on compte en Papouasie et dans les îles voisines. C'était le paradisier Grand Émeraude, l'un des plus rares. Il mesurait 3 décimètres de longueur. Sa tête était relativement petite, ses yeux placés près de l'ouverture du bec et petits aussi. Mais il offrait une admirable réunion de nuances, étant jaune du bec, brun de pieds et d'ongles, noisette aux ailes empourprées à leurs extrémités, jaune pâle à la tête et sur le derrière du cou, couleur d'émeraude à la gorge, brun marron au ventre et à la poitrine. 2 filets cornés et duveteux s'élevaient au-dessus de sa queue, que prolongeaient de longues plumes très légères, d'une finesse admirable, et ils complétaient l'ensemble de ce merveilleux oiseau que les indigènes ont poétiquement appelé l'oiseau du soleil. Je souhaitais vivement de pouvoir ramener à Paris ce superbe spécimen des paradisiers afin d'en faire don au jardin des plantes qui n'en possède pas un seul vivant.
C'est donc bien rare, demanda le Canadien, du ton d'un chasseur qui estime fort peu le gibier au point de vue de l'art.
Très rare, mon brave compagnon, et surtout très difficile à prendre vivant. Et même mort, ces oiseaux sont encore l'objet d'un important trafic. Aussi les naturels ont-ils imaginé d'en fabriquer comme on fabrique des perles ou des diamants.
Quoi ? S'écria Conseil. On fait de faux oiseaux de paradis ?
Oui, Conseil. Et monsieur connaît-il le procédé des indigènes ?
Parfaitement.
Les paradisiers, pendant la mousson d'Est, perdent ces magnifiques plumes qui entourent leur queue, et que les naturalistes ont appelées plumes subalaires. Ce sont ces plumes que recueillent les faux monnayeurs en volatile, et qu'ils adaptent adroitement à quelques pauvres perruches préalablement mutilées. Puis ils teignent la suture, ils vernissent l'oiseau et ils expédient au muséum et aux amateurs d'Europe ces produits de leur singulière industrie.
Bon, fit Ned Land, si ce n'est pas l'oiseau, ce sont toujours ses plumes, et tant que l'objet n'est pas destiné à être mangé, je n'y vois pas grand mal.
Mais si mes désirs étaient satisfaits par la possession de ce paradisier, ceux du chasseur canadien ne l'étaient pas encore. Heureusement, vers 2 heures, Ned Land abattit un magnifique cochon des bois, de ceux que les naturels appellent bari-outang. L'animal venait à propos pour procurer de la vraie viande de quadrupède, et il fut bien reçu. Ned Land se montra très glorieux de son coup de fusil. Le cochon, touché par la balle électrique, était tombé raide mort. Le Canadien le dépouilla et le vida, après en avoir tiré une 30 douzaine de côtelettes destinées à fournir une grillade pour le repas du soir. Puis, cette chasse fut reprise, qui devait encore être marquée par les exploits de Ned et de Conseil. En effet, les 2 amis, battant les buissons, firent lever une troupe de kangourous qui s'enfuirent en bondissant sur leurs pattes élastiques. Mais ces animaux ne détalèrent pas si rapidement que la capsule électrique ne put les arrêter dans leur course.
« Ah, monsieur le professeur !» s'écria Ned Land, que la rage du chasseur enivrait. « Quel gibier excellent, cuit à l'étuvée surtout. Quel approvisionnement pour le Nautilus. 2, 3, 5 à terre !»
Et quand je pense que nous dévorerons toute cette chair et que ces imbéciles du bord n'en auront pas miette, je crois que dans l'excès de sa joie, le Canadien, s'il n'avait pas tant parlé, aurait massacré toute la bande. Mais il se contenta d'une 12aine de ces marsupiaux, qui forment le premier ordre des mammifères à placentaire, dit Conseil. Ces animaux étaient de petite taille, c'était une espèce de ces kangourous alpins qui gîtent habituellement dans le creux des arbres, et dont la vélocité est extrême. Mais s'ils sont de médiocre grosseur, ils fournissent du moins la chair la plus estimée.
Nous étions très satisfaits des résultats de notre chasse. Le joyeux Ned se proposait de revenir le lendemain à cette île enchantée, qu'il voulait dépeupler de tout quadrupède comestible. Mais il comptait sans les événements. À 6 heures du soir, nous avions regagné la plage. Notre canot était échoué à sa place habituelle. Le Nautilus, semblable à un long écueil, émergeait des flots à 2 milles du rivage. Ned Land, sans plus tarder, s'occupa de la grande affaire du dîner. Il s'entendait admirablement à toute cette cuisine. Les côtelettes de Bari Outang, grillées sur des charbons, répandirent bientôt une délicieuse odeur qui parfuma l'atmosphère. Mais je m'aperçois que je marche sous les traces du Canadien. Me voici en extase devant une grillade de porc frais. Que l'on me pardonne, comme j'ai pardonné à Maître Land, et pour les mêmes motifs. Enfin, le dîner fut excellent. 2 ramiers complétèrent ce menu extraordinaire. La pâte de sagou, le pain de l'artocarpus, quelques mangues, 1/2 douzaine d'ananas et la liqueur fermentée de certaines noix de coco nous mirent en joie. Je crois même que les idées de mes dignes compagnons n'avaient pas toutes la netteté désirable. « Si nous ne retournions pas ce soir au Nautilus, dit Conseil. »« Si nous n'y retournions jamais, ajouta Ned Land. » À ce moment, une pierre vient tomber à nos pieds et coupa court à la proposition du harponneur.